Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Canu, le 102.2, et maintenant c'est Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours Radio Canu 102.2 et maintenant c'est Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
On va commencer par deux petites annonces. Alors une annonce pour qui met du collectif Jamais Sans Toi.
Donc voilà, donc, du collectif Jamais Sans Toi. Donc à l'école Grand Clément de Vau-en-Velin, deux familles sont toujours à la rue, donc trois adultes, quatre enfants, dont deux en bas âge, et ce depuis le 10 mars. Malgré les demandes incessantes des familles et du collectif Jamais Sans Toi, les institutions municipales et préfectorales refusent toujours de mettre à disposition un hébergement d'urgence. Donc appel à un repas solidaire, donc demain, le jeudi 6 avril, devant l'école à 18h pour discuter de la mise à l'abri de ces familles. À l'école Grand Clément de Vau-en-Velin, donc depuis le 10 mars, des enfants sont toujours à la rue. Ceci malgré les relances régulières des autorités. Appel quotidien au 115, demande aux élus de la mairie de Vau-en-Velin, au préfet et à Madame Bonnec, donc la directrice de cabinet de la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, de faire respecter le droit à l'hébergement et le code de l'action sociale et des familles, ainsi que la Convention internationale des droits de l'enfant qui pourrait leur permettre de mettre à disposition des hébergements municipaux actuellement libres. Donc voilà. Donc demain.
Voilà, donc on vous invite à aller voir là-bas. Donc Jamais Sans Toi, ça fait un petit moment. Voilà, on avait déjà parlé la semaine dernière, puis les semaines d'avant, hein, sur les soit occupation d'école, soit sur les goûters solidaires, soit sur l'hébergement des familles du coup scolarisées. Et voilà. Puis là, en plus, se rajoute la problématique maintenant de la fin de la trêve hivernale. Donc ça veut dire que même s'il y a des solutions qui sont trouvées, voilà, il y a des expulsions beaucoup plus faciles que durant l'hiver. Donc voilà, on espère qu'il y aura des solutions qui seront trouvées pour ces familles-là. Et la deuxième annonce qu'on voulait faire, bah du coup, c'est le concert de réouverture officielle de la Plume Noire. Ça se déroule ce vendredi soir à partir de 19h30 ouverture. Le concert sera vers 20h30-21h avec le groupe Les Fées Minées qui était venu déjà en 2013 pour un concert de soutien qui avait lieu à la Plume Noire, et ce concert était en soutien pour l'ouverture du local féministe dans le 7e arrondissement. Donc du coup Les Fées Minées reviennent, voilà, elles font deux dates sur Lyon et on les accueille avec grand plaisir. Donc c'est aussi une réouverture officielle, mais vous le savez parce qu'on l'a annoncé toutes les semaines, voilà, les cours de langue ont quand même perduré durant tout l'hiver malgré le fait qu'on ait plus de portes,
ainsi que les permanences, voilà,
ainsi fait, que les permanences
c'est
de la librairie,
les activités locales qui étaient un peu plus compliquées à maintenir, quoi.
Voilà, donc là c'est une soirée de réouverture officielle parce que les travaux ont été faits il y a moins de 15 jours. Donc voilà, on vous invite du coup à venir au concert pour voir un petit peu la tête du nouveau local et voilà, et puis participer aussi un peu au soutien à la librairie. Le concert, bah, il est à prix libre comme d'habitude. Voilà, donc vous venez, vous invitez vos amis et puis on passera une bonne soirée.
Tout le monde vient.
Voilà, on espère
de la place.
La soirée sera une réussite, on l'espère. Donc voilà pour les annonces et donc là pour la première partie de l'émission, on va faire un point du coup sur ce qui se passe en Guyane. Et du coup, je vais laisser la parole aux camarades.
Oui, alors du coup, en Guyane en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements sociaux au pluriel parce qu'il y a plein de trucs qui se retrouvent là-dedans. Et du coup, on voulait faire un petit retour sur qu'est-ce que c'est que la Guyane, parce qu'on a entendu quand même des belles conneries.
C'est une île ou...
Tu es macroniste, non? Bref, donc la Guyane, non, n'est pas une île. Et du coup, je vais vous expliquer un peu l'histoire de la Guyane et comment ça s'est constitué, ce qui fait de la Guyane ses particularités. Donc la Guyane, découverte entre guillemets par Christophe Colomb, a été colonisée au cours du 16e, 17e siècle par différentes puissances impériales européennes. Qui se faisaient des petites guéguerres de territoire. Mais finalement, du coup, c'est la France qui arrive à avoir la mainmise sur ce petit territoire de la côte nord de l'Amérique du Sud. Donc c'est un immense territoire qui fait à peu près entre deux et trois fois la région Rhône-Alpes. Donc c'est quand même assez grand. Et à l'heure actuelle, il y a 200 000 personnes qui y habitent, ce qui est très peu. Et donc, au départ, la Guyane, quand il y a eu une première volonté de vraiment coloniser l'espace, ça a été sur une économie de plantation. C'était à l'époque du début de la traite négrière, commerce triangulaire et tout ça et tout ça. Du coup, une énorme une énorme déportation de personnes d'Afrique subsaharienne pour faire vivre l'agriculture de canne à sucre, de cacao, de café et toutes ces choses absolument essentielles à la vie occidentale. Plus tard, on en a fait des lieux de déportation politique avec les bagnes qui ont été très présents dans les colonies, pas que la Guyane d'ailleurs, mais aussi la Nouvelle-Calédonie et tout ça.
On salue d'ailleurs ce clown de Dupont-Aignan qui veut remettre un bagne à Cayenne, il me semble.
Il a dit
ça. Son programme, ouais, il me semble bien.
Ah bah Cayenne, c'est pas le meilleur endroit parce que l'ancien bagne du coup se situait non pas au niveau de Cayenne, mais au niveau de Kourou. Kourou qui est aujourd'hui la base spatiale. Ouais, donc pour expliquer un peu, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait très clair pour les gens qui connaissent pas, la vie est concentrée sur la côte, forcément, sinon c'est la forêt amazonienne, ouais. C'est un peu difficile de s'y déplacer, en tout cas pour les gens qui ne sont pas amérindiens. Et il y a trois villes, principalement, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, espacées chacune de 150 km à peu près. Et du coup, c'est sur les rives de Kourou qu'il y a les îles du Diable, à quelques kilomètres au large, où il y avait du coup les bagnes, où il y a eu notamment Dreyfus à l'époque, qui avait son île tout seul, parce que bon, c'était quand même quelqu'un de très très dangereux. Il avait son île tout seul, il était sous très très haute surveillance. Donc, pour revenir à l'exploitation sucrière, c'est là que a commencé du coup des évasions d'esclaves, des révoltes, et ça a créé ce qu'on appelle aujourd'hui les Noirs Marrons ou Bushinengue, qui sont une ethnie assez importante au niveau de la population de la Guyane, qui du coup se sont évadés et qui ensuite sont depuis vivent sur les rives des fleuves, ont réinventé une sorte de vie dans la forêt, en cohabitant plus ou moins bien avec les populations amérindiennes. Que dire d'autre ? La population amérindienne, à ce moment-là, du coup, a subi une forte diminution, étant donné qu'on leur a ramené toutes sortes de maladies, d'épidémies, qu'on les a aussi juste massacrées. Donc, ça a fait un peu de ménage. On est passé de 30 000 personnes sur le territoire de la Guyane en population amérindienne, à aujourd'hui, on en est à 3 000, 4 000, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, plus tard, la Guyane, à la fin de l'esclavage, la vraie fin, celle de 1848, a eu un peu de mal à relancer son économie sucrière, qui est repartie quand ils se sont dit qu'il fallait mettre les bagnards au travail et qu'ils les ont fait bosser dans le sucre. Bon, faut bien se rappeler que c'était quand même assez meurtrier comme... comme mode de vie. Enfin voilà, disons que sur 100 bagnards, il y en avait peut-être 90% qui décédaient au passage. On a d'ailleurs surnommé les bagnes la guillotine sèche, ça donne une petite idée. Ensuite, historiquement, on en arrive maintenant à la période des guerres mondiales, où la Guyane a connu un sacré repli parce que la métropole avait un peu autre chose à faire que d'aller s'occuper d'une colonie à l'autre bout du monde qui ne pouvait rien lui apporter comme ressources lors de la guerre. Qu'il y avait aussi du mal à se déplacer parce que clairement l'océan était au... Enfin, il y avait des navires de guerre partout. Pendant cette période de repli, en Guyane, il y a eu le monsieur Gaston Monnerville, qui est un homme politique, qui s'est dit, tiens, je vais devenir gaulliste. Donc ça, c'était pendant la Deuxième Guerre. Qui a rejoint De Gaulle, et qui a permis à des gens d'aller se battre pour la France. Ce qui a fortement accéléré la départementalisation de la colonie. Donc en 1946, la colonie de la Guyane devient un vrai département. Il n'y a pas trop de lien toujours avec la métropole jusque dans les années 60 où la guerre d'Algérie arrive. Vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais en fait si, parce que avec la perte de l'Algérie, la France n'a plus de base spatiale qui se situait à l'époque dans le Sahara. C'était sa base d'expérimentation, de lancement et tout ça. C'est là qu'ils se disent, tiens, on va en mettre une en Guyane, parce que la Guyane se situe tout proche de l'équateur, ce qui est quand même très pratique pour lancer des fusées, puisque, les physiciens comprendront, ça permet de lancer les fusées mieux, quoi. Voilà.
C'est là que la Terre tourne le plus vite, en fait.
Oui, c'est ça, ça donne de l'élan.
Merci, physiciens.
Une explication
géographe, physicien, que de talent.
J'ai fait des avions en papier, et ça m'a beaucoup servi.
Ils partent mieux de l'équateur, c'est ça. Voilà, il y a aussi une relance de la ruée vers l'or, parce qu'à savoir que la Guyane est un territoire aurifère. Et il y a une exploitation de quelques colons depuis le XVIIIe siècle, c'est quand même pas grand-chose, et les moyens techniques aidant, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à arriver après la Seconde Guerre mondiale, et notamment... depuis les années 90, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'exploitations de l'or, beaucoup illégales aussi. Ce qui fait de la Guyane un territoire pas très sûr pour se balader. On peut rencontrer des gens avec des kalachnikovs au détour d'un petit chemin dans la forêt. Ça peut être assez surprenant.
C'est un peu l'histoire de tout le continent latino-américain pour le coup. Hein.
Oui, et on en vient à une autre partie de l'histoire du continent américain, latino-américain, qui est, à votre avis...
Tu vas nous le dire,
c'est pas
la drogue. Et oui, parce que du coup, l'autre problème de la Guyane, c'est que c'est le passage, un passage très pratique pour faire entrer la colombienne vers l'Europe. Et du coup, il y a tout le temps des histoires de trafic. Quand on écoute Guyane Première, on apprend très souvent que la police a saisi je ne sais combien de kilos de coke, etc. Bon, maintenant, on sait ce qu'ils en font, de la coke à la police. Mais quand ils la sniffent pas eux-mêmes, ils la revendent. Donc voilà. Pour revenir aussi sur les années 60-70... Là, je vais vous parler du coup de la guerre du Vietnam. Encore un truc qui n'a rien à voir, vous allez me dire. Sauf que, en fait, dans la péninsule indochinoise, il y a des gens qui ont collaboré avec les impérialistes, français puis américains, pendant la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam, notamment le peuple Hmong. Le peuple Hmong qui, du coup, s'est dit qu'à un moment, ça a commencé à chauffer un peu quand les communistes ont commencé à descendre. Et ils ont donc rejoint les territoires plus au sud de la Thaïlande et tout dans des camps de réfugiés. Et les impérialistes se sont occupés de leur cas et leur ont offert de pouvoir s'installer, notamment en Guyane. Et du coup, depuis une petite quarantaine d'années, il y a des peuplements Hmong qui représentent une proportion de bien 1 ou 2% de la population et qui ont réussi à pas mal développer sur le territoire guyanais l'agriculture. C'est-à-dire qu'en fait, la forêt vierge, on dit que c'est très bien parce qu'il y a plein de plantes et tout, mais en fait, si on veut y cultiver des choses, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, quand les Hmongs sont arrivés, ils avaient un passé d'agriculteurs assez fort. Ils ont réussi à y cultiver beaucoup de légumes, d'agriculture pour manger et à grand renfort de pesticides et autres trucs un peu comme ça, ce qui a permis de redonner un souffle d'air à l'alimentation guyanaise. Maintenant, il n'y a quasiment que les Hmongs en fait, qui vendent sur les marchés. C'est de l'ordre de 30 000 tonnes par jour de légumes qui sont distribués à travers toute la région. J'ai oublié de dire que les bagnes ont disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, suite à la mobilisation notamment autour de Albert Londres. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet écrivain et journaliste.
Eh bien non.
Eh bien non. C'était un mec un peu à la Hugo, vous voyez, ou à la Zola, un de ces gens qui écrivait des bouquins, des romans fleuves et tout. Il était très intéressé par la question sociale et politique. Et il s'est dit, les bagnes, franchement, c'est dégueulasse, faut que ça s'arrête. Et ça a fait grand bruit dans les médias, il a écrit des articles, il a allé sur place rencontrer des bagnards et tout. Finalement, ils ont arrêté les bagnes. Que dire d'autre ? Oui, alors, du coup, ça fait vraiment peu de temps que la Guyane est un département qui a des liens avec la métropole. Parce que, du coup, comme vous avez pu le comprendre, c'est pas facile d'y aller, c'est pas facile d'y vivre. C'est-à-dire qu'on chope très facilement des maladies là-bas, que jusque dans les années 50-60, enfin, il y avait vraiment très peu d'infrastructures. Et c'est notamment Gaston Monnerville, dont on a déjà parlé, qui était gaulliste, qui a vachement aidé pour mettre plus d'institutions, pour en gros en faire un territoire plus proche de la métropole au niveau du mode de vie aussi. Mais il y a toujours un énorme gap entre la vie en Guyane et la vie en métropole. Et du coup, ça fait qu'il y a régulièrement des problèmes. Au-delà du fait que la vie n'est pas facile, parce qu'il y a aussi les trafiquants partout. Comme c'est un peu un territoire de maquis, il y a pas mal de petites délinquances, de l'insécurité au sens de... On peut se faire agresser un peu partout, genre de trucs. Et puis, pas mal de racisme interethnique, mine de rien. Bah, ça a plusieurs fois pété, notamment en 1959, où il y a eu un gros mouvement social suite à la mort d'un Guyanais. Alors, j'ai cherché sur Internet, hein, on m'a dit que c'était dans un accident avec un métropolitain. Bon, il en est résulté de toute manière des manifestations qui ont donné lieu à 3 morts parmi les manifestants. Donc, c'est quand même un épisode assez marquant. Pour continuer plus du côté des luttes, c'est du coup au début de la moitié du XXe siècle que s'est constituée la CGT guyanaise, qui du coup était un organe de la CGT en Guyane et qui s'occupait d'affaires syndicales. Puis un jour, la CGT guyanaise est arrivée au congrès et leur a dit, en fait, on veut plus faire partie de la CGT parce que vous êtes trop coloniaux, quoi, dans votre manière de gérer le truc, on voudrait avoir plus d'autonomie. Donc, scission, création de l'UTG, l'Union des Travailleurs Guyanais. Mais il y a toujours beaucoup de liens avec la CGT, notamment les gens qui passent en métropole ou qui viennent en Guyane et qui sont à la CGT ou à l'UTG, ils sont fortement incités à adhérer l'un à l'autre, etc., etc. Et l'UTG a été pionnier dans les mouvements de décolonisation. C'est-à-dire qu'elle avait une vraie position politique pour la libération nationale, donc avec les critiques qu'on peut faire à un système de libération nationale, mais du coup sur un truc vraiment anticolonialiste. Et il y a des personnalités importantes de l'UTG d'ailleurs qui ont fondé le Parti Populaire Guyanais, parti indépendantiste, et qui siège aujourd'hui à la commission, un truc qui s'appelle Commission de décolonisation de l'ONU, voilà, pour la libération du peuple guyanais du joug métropolitain. Après, c'est un peu compliqué aussi de rassembler autour de ces questions, parce que, comme vous avez pu le comprendre sur l'exposé historique, les populations guyanaises, elles sont très différentes, elles sont là depuis des temps un peu... Enfin, vraiment, ça n'a rien à voir pour les Hmongs qui sont depuis 40 ans. Ou, voilà, il y a un peu du mal à retrouver cette solidarité et ce passé et avenir commun. Quoi d'autre ? Oui, donc aujourd'hui, l'UTG demande un statut particulier pour la Guyane dans le mouvement actuel, qui vise du coup à plus d'autonomie pour la Guyane. Voilà. Après, bon, au niveau des populations qui sont présentes en Guyane, il y a aussi du coup les métropolitains, qui sont majoritairement des fonctionnaires, ouais, et qui, pour la plupart, vont y passer quelques années de leur carrière et ensuite reviennent. Ouais.
On sort sur 3 ans, ce genre de contrat, ou à 3, après ça peut être multiplié, mais généralement, voilà, c'est le passage,
c'est ça,
en tout cas.
Parce qu'il y a des avantages économiques aussi à aller en Guyane.
Il y a des primes.
Parce que si on veut y vivre sur le même mode de vie qu'en France, et qu'on va à Super U, en fait, Super U là-bas, comme c'est tout importé de France, c'est plus cher. Du coup, on a le droit à une paye déjà augmentée d'1,4 fois, plus des primes régulières, effectivement. Petit détail aussi, en Guyane, on est toujours sous le cléricat. Vous savez, comme en Alsace-Lorraine.
Mignon.
Voilà. Donc les prêtres là-bas sont payés par l'État. À savoir, pour la petite histoire, qu'il y a quelques temps, dans les mois derniers, il y a un imam qui a demandé à se faire payer. Ils ont dit, bah non, en fait, parce qu'on n'a pas reconnu la religion comme religion officielle du département. Bon, voilà, c'est ça la vie sous le clérica.
Va te faire ta place. Voilà, bah super. Et du coup, on voulait faire maintenant un petit point sur ce qui se passe, que du coup, vous entendez forcément parler hein, depuis un petit moment maintenant sur le mouvement qui a lieu en Guyane.
Ouais. Alors du coup, je vais commencer par juste un truc pour ajouter sur ce qui avait été dit sur en fait ce qui s'est passé quand il y a eu l'accord quand l'UTG a scissionné avec la CGT, il y a eu un accord unilatéral qui a quand même été fait et c'est ce que tu disais, mais il est vraiment formel cet accord, c'est-à-dire que normalement si t'as quelqu'un qui est en Guyane qui vient en France, il doit adhérer systématiquement à la CGT. En tout cas, il y a plus que la consigne qui est donnée.
Merci pour la précision.
Et voilà, et vice versa. Voilà, et donc du coup je vais commencer par un article sur du collectif d'Alternatives Libertaires de Guyane. Voilà, donc je sais pas si vous savez un peu, il y a dans les mouvements qui ont pas mal de visibilité, il y a le mouvement des 500 frères. Et ce qu'on peut voir pour le porte-parole des 500 frères, c'est un ancien de la police. Voilà. Et donc il y a quand même un truc qui est drivé par des gens qui sont pas forcément tout à fait nos copains, donc voilà, c'est ce qui explique en gros collectif d'alternative libertaire en Guyane, donc je vais vous le dire. Le mouvement populaire qui secoue cette colonie départementalisée est formidable malgré le rôle qui joue le patronat et les 500 frères. Le mouvement social en Guyane étonne par son intensité. Blocage du tir de la fusée Ariane, barrages routiers ont été successivement mis en place jusqu'à la grève générale. Dans cette situation inédite, des forces de nature très différentes agissent coude à coude. Les syndicats de l'Union des travailleurs guyanais, l'UTG, notamment son syndicat de l'éclairage, des collectifs citoyens, les Toucans de Kourou, les 500 frères contre la délinquance, les Iguanes de Saint-Laurent de Maroni, et les syndicats patronaux, MEDEF, CGPME, FDCEA, peut-être un truc de la FNSEA, ce sont ces derniers qui, dans la pratique, ont installé les barrages. Un curieux mélange des genres, déjà vu en Bretagne à l'époque des bonnets rouges et qui incite à la vigilance. Quand le patronat aura vu satisfaire ses intérêts privés, nul doute qu'il lâchera le formidable mouvement populaire. Santé, social, éducation. Malgré cela, la population créole, majoritaire en Guyane, s'est solidarisée avec les barrages car elles exprimaient des revendications économiques et sécuritaires en écho avec ses préoccupations. Ces préoccupations sont au premier chef l'insécurité, avec un grand mouvement de soutien populaire aux 500 frères contre la délinquance. Mais les revendications économiques sont-elles aussi importantes, avec un taux de chômage de 24% et jusqu'à 55% parmi les moins de 25 ans. S'y sont ajoutées des revendications sanitaires, passage dans le service public du centre médico-chirurgical de Kourou, en instance de cession à un groupe privé, refinancement de local de Cayenne, etc. Mais aussi éducative, construction scolaire pour permettre la scolarisation de tous les enfants intervenant en langue maternelle. Donc, pour donner un petit exemple, il y a à Cayenne, donc qui est une ville de 100 000 personnes, je crois, 100 000 habitants. Il y a eu plus de 15 000 grévistes à l'appel de l'UTG pour la grève générale. Les communautés autochtones amérindiennes se sont jointes, elles aussi, au mouvement avec leurs propres revendications, la signature de la convention 169 de l'OIT, la lutte contre l'orpaillage illégal, donc l'or, c'est ça, la recherche de l'or. On ne note pas de récupération politique évidente de ce mouvement pour le moment, avec des élus qui se disent solidaires mais se tiennent en retrait. Ainsi, dès le premier jour de la grève générale appelée par l'UTG, 15 000 personnes pour une ville de 100 000 habitants, donc c'est ce qu'on disait, ont manifesté à Cayenne, sans présence d'organisation politique dans le cortège. 6 000 à Saint-Laurent de Maroni, 600 à Maripasoula. C'est toute la Guyane qui s'est mobilisée, les communes du fleuve Maroni à l'ouest, à Saint-Georges et de l'Oyapoc et à Camponi à l'est. Dans les collectifs revendicatifs.
Camopi, on dit.
Désolé. En tant que communiste libertaire, il nous est impossible de soutenir toutes les revendications de ce mouvement initié par les 500 frères. Agglomérat d'anciens policiers et de vigiles, à savoir la création d'une nouvelle prison et d'un nouveau tribunal, l'augmentation des effectifs de police et de la gendarmerie, l'éradication des squats où survivent les migrants. Le lien entre immigration et insécurité est détestable et la solution de fond à la sécurité n'est pas la répression mais l'éradication de la détresse sociale. À El Guyane participe avec enthousiasme aux divers collectifs revendicatifs dans des différents secteurs et nous sommes implantés. Communes du fleuve, éducation, santé, culture. Ce printemps guyanais, pour nous, l'occasion de créer des liens pour l'avenir. Donc c'était Alternative Libertaire Guyane le 2 avril 2017. Et il y a aussi, niveau syndical aussi, il y a aussi un Sud Guyane aussi qui est pas mal investi aussi. Voilà, et je vais continuer aussi, je vais enchaîner sur, sur la brutalité policière. Donc en ce moment, ça n'arrête pas. Hein. Après, après Adama et Shaoyo Liu, il y a la mort d'un tzigane. Donc je vais vous lire l'article qui est de la sœur de l'homme tué. Mort d'Angelo Garan, c'est pas une bavure policière, c'est rien d'autre qu'une exécution. Dans une vidéo publiée le 1er avril 2017, la sœur de l'homme tué par les gendarmes dans un petit village du Loir-et-Cher remet en cause la version servie par le procureur de Blois. Angelo Garan était recherché parce qu'il n'avait pas réintégré la prison de Vivonne après avoir bénéficié d'une permission de sortie. La vidéo publiée sur YouTube montre la sœur d'Angelo, Aurélie, qui répond aux propos tenus par le procureur de la République dans un reportage de France 3. Angelo Garan a été abattu par des gendarmes dans la ferme familiale le 30 mars. La section du GIGN basée à Tours avait été appelée en renfort pour procéder à son interpellation. Il n'avait pas réintégré la prison de Vivonne après avoir bénéficié d'une permission de sortie en septembre 2016. Du côté des gendarmes, on plaide la légitime défense. Anna Garan revient d'abord sur les termes employés par les autorités qui qualifient l'évadé d'homme potentiellement dangereux. Ce n'est pas un évadé, j'appelle pas ça un évadé, j'appelle ça un déserteur. Un évadé pour moi, c'est quelqu'un qui déploie des moyens. On lui a donné la permission de sortir. Vous dites que c'est un individu dangereux ? C'est vous qui lui avez donné la permission. S'il était si dangereux, pourquoi vous l'avez laissé sortir ? Pourquoi tout ça ? Elle explique ensuite que tous les membres de la famille présents à la ferme ce jour-là ont été violemment interpellés. Ils ont interpellé mes parents, mon frère, ma belle-sœur, jetés comme des chiens, mes parents handicapés, malades, sous oxygène, ma mère greffée, mon père, tout. Horrible. Elle s'interroge sur la disproportion que représente le fait d'envoyer le GIGN pour procéder à l'interpellation d'Angelo qui purgeait une peine liée à des vols. Vos hommes, c'est des commandos. Déjà, il y a un problème, on n'envoie pas des commandos chez n'importe qui. Pas pour des individus comme lui, non, je suis désolé. Pour des gens qui tuent, pour des gens qui font du mal à d'autres gens, mais il n'a jamais fait de mal à personne. Elle poursuit. J'appelle pas ça une balvure policière, ni quoi que ce soit. Pour moi, c'est une exécution, c'est tout ce que c'est. C'est l'exécution de mon frère devant mes parents, chez nous, c'est grave. Elle revient sur la reconstruction organisée le lendemain de la mort d'Angelo. Pourquoi vous avez eu votre reconstitution et vous, nous, on ne l'a pas eu? Pourquoi on n'a pas de nouvelles? On apprend quoi? Qu'il a été touché avec 3 balles, apparemment. On apprend ça où? Par les pompes funèbres. C'est aux pompes funèbres de nous donner. Elle évoque ensuite l'important déploiement des gendarmes organisé par le préfet du Loir-et-Cher suite à la mort d'Angelo dans la Nouvelle République. On peut lire. À la suite du décès de l'homme, d'importants moyens de renfort et de gendarmerie mobile ont été déployés en lien avec le préfet, indiqué hier soir le procureur de la République, Frédéric Chevalier. Ça ne marchera pas comme ça que vous l'espérez, à mettre vos moyens en place en espérant des émeutes, comme vous avez fait la première fois. C'est de la manipulation. La dernière fois, c'est comme ça que ça s'est passé. Le final, ça a été quoi? Les gens qui ont fait ça ont été en prison parce que c'est juste, ils ont voulu que la vérité soit mise sur le tapis. C'est tout. Et c'est eux qui ont été jetés en prison. Enfin, elle évoque d'autres victimes de la police. Tous ces gens qui ont été tués par les gendarmes, comme ça, qu'on se prend pour n'importe qui, que ce soit des manouches, des gitans ou même seulement des arabes. Les gens aussi, les petits jeunes aux transfos, il y a plein de trucs comme ça. C'est pas normal. Ça passera pas. On fera des marches, on fera des groupes de soutien. Vous voyez tous la vérité en face. C'est pas une bavure policière. C'est rien d'autre qu'une exécution. C'est juste ça. C'est tout ce qu'ils ont fait. Sur la plateforme Litchi, où une caisse de soutien a été mise en place par la famille pour les frais d'obsèques et pour les frais d'avocat à venir, Aurélie Garan affirme aussi, tout a été très vite, plusieurs hommes sont sortis cagoulés, mon frère s'est réfugié dans la grange, ils n'étaient pas armés, contrairement à ce qu'ils ont pu dire. Ils sont entrés dans la grange, les coups de feu ont ressenti, Angelo a été exécuté sans sommation. Voilà.
Donc voilà, ce qu'on propose c'est de faire une petite pause musicale, parce que ça fait déjà un petit moment là du coup qu'on blablate pour vous faire souffler un petit peu, puis après on fera un petit retour encore sur la Guyane avant de passer aux luttes sociales et à d'autres sujets pour l'émission de ce soir. Donc on va s'écouter quoi du coup, Maestro?
On va s'écouter Mascarade, le nom de la chanson je ne connais pas,
c'est marqué au dos.
C'est marqué au dos.
Mais c'est pas très grave, on le dira après au pire.
Dysfornica, c'est parti.
La Marie va coucher, mais elle n'a jamais couché. La Marie va coucher, le mystère est entier.
Oui!
La Marie va coucher, mais elle n'a jamais couché. La Marie va coucher, le mystère est entier. S'ennuie le vieux pour vivre un peu, vieux quitte à sa
sont vieux. En hâte fatigue, mais ambivalente. L'orcelle, la panique, c'est le sauve qui peut. La Marie va coucher, mais elle n'a jamais couché. La Marie va coucher, le mystère est entier. L'usage au Dieu, pas sérieux, de la cire phallique au poudre, l'amour de Dieu. La Marie va coucher, mais elle n'a jamais couché. La Marie va coucher, le mystère est levé. Les cierges sont truqués, le mystère est levé. Les cierges sont truqués, le mystère est levé. Les cierges sont truqués, les cierges sont truqués. Les cierges sont truqués. Le mystère est levé. Le mystère est levé. Le mystère est levé. Les cierges sont truqués.
Et rebonsoir, c'est toujours Radio Canu avec Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et donc on reprend sur la discussion de tout à l'heure avec un autre petit point Guyane.
Tout à fait.
Oui, si parce que du coup, après l'interlude sur le tzigane tué par la police, on repart parce que là, franchement, il y a un truc que vous pouvez pas louper, c'est la revendication des peuples autochtones de Guyane. C'est vraiment classe. Alors je vais vous lire et franchement, ça fait vraiment, vraiment très, très plaisir. Alors, du coup, les peuples autochtones de Guyane, donc les collectifs qui les représentent, demandent, petite 1, la ratification de la convention numéro 169 de l'Organisation internationale du travail qui a fait l'objet d'un avis favorable de Nénénia. Bref, qui dit que le principe d'indivisibilité de la République est compatible avec la reconnaissance des droits individuels et collectifs des peuples autochtones. Donc la commission demande la ratification de cette fameuse convention. Donc là, c'est pour faire reconnaître leurs droits en tant que peuple particulier et pas colon. Deuxièmement, il demande la reconnaissance officielle de notre institution coutumière et des chefs coutumiers. Troisièmement, la rétrocession de 400 000 hectares de terre du domaine privé de l'État en complément des zones déjà attribuées à titre gratuit et privatif, exemptes de taxes et cadastrées pour chaque habitation dans les villages amérindiens et leurs périphéries, dont 200 000 hectares en compensation de forêts primaires attribuées sans notre consentement dans le pacte d'avenir à la collectivité territoriale de Guyane et aux mairies. Ni l'État français, ni la CTG, donc la collectivité territoriale, n'ont inscrit noir sur blanc la garantie d'une redistribution chiffrée et équitable aux autochtones. Entre parenthèses, à savoir que les autochtones en chient vraiment sur cette question territoriale, parce qu'il y a notamment le parc national de Guyane qui s'est créé depuis les années 90, et en gros, ils n'ont rien le droit de faire alors que c'est chez eux, parce que du coup, parc national oblige, ouais. Biodiversité, truc muche. Bref, l'écologie a bon dos quand il s'agit de personnes humaines, quoi. Enfin, voilà. Quatrièmement, la création d'un établissement public dénommé Office du foncier autochtone, doté du droit de préemption, donc ce qui veut dire qu'ils peuvent acquérir les terres coutumières en vue de les mettre à disposition des groupements de droit particulier local. En gros, c'est un office particulier sur l'image de celui qui est créé en Nouvelle-Calédonie pour s'occuper du foncier pour les autochtones. Ensuite, il demande la création d'un statut dénommé groupement de droit particulier local au bénéfice des communautés d'habitants autochtones et Bushinengue. Bushinengue, c'est les Noirs marrons, les anciens esclaves évadés. Ces GPDL sont ainsi établis par des statuts écrits. Ils sont dotés de la personnalité morale et utilisés pour gérer des projets, notamment fonciers. Donc ce serait le moyen, en fait, d'avoir un territoire qui puisse être géré collectivement, parce que ça, dans le droit français, il n'y a pas de possibilité d'être propriétaire collectif. Donc pour ce genre de société qui fonctionne clairement sur un fonctionnement collectif et communautaire, ça pose un peu problème. Ensuite, il demande la mise en place d'un moratoire sur les méga-exploitations minières des sociétés Columbus Gold et North Gold à Montagne d'Or, c'est le nom d'une localité, ainsi que l'arrêt immédiat de tous les projets de ce type déjà engagés. Donc l'industrie d'exploitation aurifère, c'est une des plus polluantes au monde. Ils sont constamment en train de boire du mercure, les Amérindiens, donc les autochtones, comme ils se nomment eux-mêmes. Du coup, ça pose quelques soucis quand même. Ensuite, il demande la participation des représentants autochtones à la commission départementale des mines, donc pour les mines d'or. Il demande l'éradication totale de leur paillage illégal dans les secteurs sud-ouest et sud-est de la Guyane et le rétablissement des postes fluviaux des forces publiques à Elaé et Camopi aux limites des zones à accès réglementé. Tout ça, c'est pour limiter le trafic d'or et voilà, c'est pas juste pour avoir plus de flics. Ensuite, il demande la création d'un collège dans le village de Talouen, au pays Wayana, la réhabilitation urgente de l'internat de Maripasoula, la réhabilitation de plusieurs écoles à Camopi, des logements enseignants et un nouvel internat à Camopi. Tout ça parce que les peuples autochtones sont toujours les moins bien lotis en ce qui concerne les services publics de l'éducation. Il demande aussi l'enseignement des langues autochtones, et ça c'est pas rien, de la maternelle à l'université, et la déprécarisation du statut d'intervenant en langue maternelle, ainsi que l'enseignement de l'histoire des autochtones dans les manuels d'histoire de l'éducation nationale en Guyane et en métropole. Ça, c'est quand même un gros.
Bah ça, c'est pas gagné, mais du coup, voilà, c'est ce qui est réclamé un peu de partout, notamment les anciennes colonies ou les départements et territoires d'outre-mer. Ouais.
Et au moins sur place, parce que pour connaître des enseignants là-bas, des fois, c'est un peu schizophrène de leur apprendre l'histoire de France. C'est assez dingue. Il demande aussi la mise en œuvre immédiate de moyens réels par le rectorat suite à l'annonce de la ministre de l'Éducation nationale d'ouvrir plusieurs écoles bilingues à parité horaire. Donc, parce que ça, ils peuvent faire des annonces, mais tant que ça se passe, voilà. Il demande la création d'un module sur les droits des peuples autochtones à l'Université de Guyane. Il demande la création de centres délocalisés de prévention et de soins dans chaque village autochtone du Haut Maroni et du Haut Oyapock, qui sont les deux fleuves principaux de la Guyane. Et voilà, il demande la création d'une commune de plein exercice sur le Haut Maroni, parce que du coup, toute la partie de la forêt. La partie de la forêt profonde est gérée par des communes qui sont immenses parce qu'il n'y a quasiment pas de gens qui y habitent, sauf les peuples autochtones. Du coup, ils demandent la création de communes supplémentaires pour pouvoir se gérer à leur échelle. Ils demandent l'ouverture d'une piste entre Talouen et Kayode, qui sont deux villages sur le Haut Maroni, pour désenclaver les villages par un réseau de transports fluviaux et routiers. Ils demandent l'ouverture d'une piste d'aviation à Camopi et l'aménagement d'une piste sur Troisseau aussi, qui est aussi le nom d'une localité. Ils demandent de créer un grand conseil coutumier. Il demande de créer un établissement public de coopération environnementale et culturelle sous l'égide du Grand Conseil Coutumier, donc organe déjà existant, qui s'occupe des affaires autochtones, donc tout ce qui va être vie autochtone, donc j'en sais pas plus que ça, vous voyez, c'est leur culture qui, voilà. Il demande aussi la création d'une fondation reconnue d'utilité publique permettant de réunir des fonds de soutien public-privé destinés à l'amélioration des conditions de vie des autochtones. Ensuite, il demande des régimes de dérogation sur les prélèvements d'animaux et végétaux protégés pouvant servir à leur rituel sacré ou à leur savoir-faire traditionnel. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur les histoires de parcs nationaux et tout. Bah, c'est pas évident, tu peux rien faire alors que t'as toujours vécu là et que d'un coup un jour on te dit en fait non, faut pas toucher, c'est protégé, que toi t'as toujours prélevé ce qui était nécessaire et pas plus, bref. Ensuite, il demande la mise en place d'un jour férié, la journée des peuples autochtones de Guyane, tout comme la date de la journée internationale du même nom existe et est fixée par les Nations Unies le 9 août chaque année. Et enfin, ils demandent un mémorial au jardin d'acclimatation de Paris à la mémoire de leurs frères et sœurs décédés. Donc, en gros, c'est un appel à les métropoles en mode « Coucou, on existe, vous nous longtemps. Avez massacrés !»
On était là avant, hein, et voilà. On aimerait bien être reconnu. Donc voilà, et ben merci ouais. En tout cas pour ce point bien complet sur la Guyane, puis on suivra ça parce que du coup ils sont toujours, enfin en tout cas hier ils occupaient du coup le site de Kourou.
Oui, là, le centre spatial voilà. Européen.
On verra ce qui se passe dans les jours qui viennent. Du coup on va enchaîner sur les luttes sociales, bah vas-y, hein, c'est parti. Hein.
Allez, ben on va prendre le bateau pour quitter la Guyane parole. Malheureusement. Pour aller revenir sur Lyon, en fait, c'était le 21 mars avec une grève des conducteurs du cariste Ouibus. Enfin, quand je dis du cariste, c'est une société de car, hein, Ouibus, on connaît. Donc ça s'est passé à Perrache. 30 salariés pour une occupation et empêcher donc le départ des cars. À noter donc le soutien des cheminots. De la SNCF, bien mm-hmm. entendu, normal, puisque Ouibus, c'est la SNCF, low cost. Hein. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui cloche ici c'est que ces conducteurs ont été, par des subterfuges, je dirais, débauchés de leurs emplois précédents, qui étaient des compagnies privées de car. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils leur auraient proposé de partir au privé. Hein, marche arrière, donc, marche arrière, ouais. Voilà, et entre autres à la compagnie des Carrefour qui se trouve à Valencin, ce qui occasionne évidemment des pertes pécuniaires importantes. Or, Ouibus sous-traite déjà à Fort sur certains trajets, donc un méli-mélo dans les cartons de la SNCF, mais aussi dans les contrats des conducteurs et bien sûr dans leur vie quoi, de tous les jours, quoi, bien sûr, leur vie de famille, etc. quoi. Il y a eu la même chose d'ailleurs à Lille avec Ouibus hein, qui existe là-bas exactement pareil. C'est Elex ID Bus, toujours de la SNCF, mais sur les longues distances depuis 2012. Là encore, ce sont des chauffeurs, des conducteurs, cette fois de la CGT qui étaient en grève et solidaires, tout à fait solidaires de leurs camarades de Lyon. Donc, une lutte qui est en lien avec Lille, sur Lyon. Alors, le souci et les questions qui se posent à Lille, est-ce que ça va tenir, déjà, dans un premier temps ? On leur avait promis que c'était valable, enfin, solide, jusqu'en 2019. C'était promis, juré. 40 salariés, donc, en question sur leur avenir, finalement, au bout du compte. Et aussi, leurs emplois difficiles, hein, qu'il faut remarquer, parce que eux, ils parcourent toute l'Europe, en fait. À Vienne, dans le 38, donc à côté de chez nous, là, c'est Yopla, donc une grève. Et youpi,
Non, c'est bien,
pas empêcher, mais bon, désolé. Et c'était le 21 mars aussi, avec les équipes de nuit et de jour, 90% de grévistes quand même en fabrication, donc plus de yaourt. Les salaires étaient en question, 1% offert par la direction pour 2017, alors que celle-ci réalise 29 millions d'euros pour... file 29 millions d'euros pour les actionnaires. Et il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi une incertitude du lendemain, avec une gestion des sites façon capitalisme, que plus que moi, tu meurs. Quoi. Plus capitaliste que moi, tu meurs. Une autre à Saint-Égrève. Alors j'aime bien ce nom-là, Saint-Égrève.
Hein, 38 c'est du côté de aussi.
Joli nom hein, pour des luttes. Là, ça se passe dans un hôpital psychiatrique avec un personnel en colère et en lutte contre une proposition de la direction de modification des horaires de travail. Il y a Anguille-sous-Roche, puisque le but, au bout du compte, c'est de supprimer 13 jours par an en récupération, en réduisant le temps de travail de 30 minutes par journée. C'est vraiment bien calculé, hein, c'est pointu, c'est vicieux. Donc l'échange entre professionnels ne se fera plus, au moins ou moins bien, puisque c'était la coutume, hein, on s'échange les informations.
Ouais.
Voilà. Donc il a amené à la diminution aussi de deux postes d'agents par équipe, et puis la fermeture d'unités pendant les congés scolaires, et ainsi réaffecter le personnel pendant cette période ailleurs, dans d'autres services. Donc il y a eu des débrayages pour marquer le désappointement de tous ces salariés. Ils sont 300, hein, 300 salariés qui ont suivi aussi bien dans le service technique, service de soins, service administratif. Toutefois sans réponse de la direction pour le moment, enfin du moins à cette date. Annonay maintenant dans l'Ardèche, en Ardèche, une maison de retraite Montalivet, du moins son personnel et les résidents hein, qui ont amené leur concours donc à une grève avec 95% de grévistes et ne sachant peut-être pas que elles et eux, c'est-à-dire les résidents et les résidentes, bah, c'est eux qui vont payer finalement au bout du compte puisque il y a les c'est une question de salaire hein, tout bonnement donc voilà l'argent il faut aller le chercher où c'est qu'il est hein, bah, dans la poche aussi des résidents et des résidentes et puis ailleurs quoi bon voilà donc ces salaires qui sont bloqués depuis 2010. Alors d'après les informations que j'ai pu avoir, ils auraient gagné 1000 euros par an de mieux. Il y a eu la même chose à Davezieux, hein, c'est à peu près c'est la même société, la même maison quoi, et qui s'appelle ici les Colombes. Le personnel s'était joint donc au mouvement de celui d'Annonay, qui a duré quand même une semaine. Alors autre revendication ici, toutefois, puisqu'il y a la question des remplacements des arrêts de travail, la reconnaissance de l'ancienneté, la suppression des jours de carence. Et ici, c'est la CGT qui menait, j'allais dire le bal, mais enfin, qui était là en tête pour cette lutte. Pont de Salard, maintenant, c'est dans l'Aveyron, avec, revoilà les facteurs et les factrices hein, en bagarre. Si elles ont arrêté un jour, hein, je ne pense pas quand même. Alors, toujours la même punition hein, pour les directions, donc c'est des arrêts de travail. Alors, en cause, c'est la suppression d'une tournée et demie. La grève a eu 48 heures de durée. La direction, sans revenir sur le projet, a concédé sur l'augmentation du temps de travail des facteurs à 37h30. C'est aussi assez pointu, là, hein, quand même. Hein. Il a fallu que je regarde à plusieurs fois pour comprendre. Donc, à 37h30 hebdomadaire, alors ce qui, je cite la CGT, leur permet de gonfler, je cite, hein, leur activité pour pouvoir éponger. Je recite encore, hein, c'est pas moi qui ai inventé les termes, hein. Le surcroît de travail dû à cette suppression. Alors dans le positif, il y a eu la gagne d'un CDI quand même, un ex-CDD en fait qui est passé en CDI, la promotion d'un agent, le maintien de la tournée estivale pour désengorger les campings. Je recite encore la CGT, hein, c'est pour moi qui invente tout ça. Hein. Donc l'activité, ça m'a fait rire en fait, c'est pour ça que je le dis. Donc l'activité a repris après, non mais c'est les expressions en fait. Bon, oui. Voilà. Oui mais bon. L'activité a repris après un piquet de grève quand même, aujourd'hui c'était donc le mercredi dernier, avec un protocole d'accord. La CGT FAPT de la Fédération des activités postales et télécom a noté que la direction proposait 37h3 de travail hebdomadaire. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est très pointu, hein, alors que les salariés estimaient à 38h11 la semaine. Donc, je finis par dire à vos calculettes quand même, parce que là, ça va chercher loin. Et pour terminer avec Lac, donc la ville de Lac, hein, là où on produisait le gaz, c'est la société Yara, une entreprise qui fait dans le nitrate d'ammonium, qui vient dans la composition d'engrais et d'explosifs. Alors, c'est pas très ragoûtant, mais enfin, il y a des gens qui travaillent là-dedans, avec une fermeture quand même annoncée. Il y a 86 personnes et plus, car cette société fournit des grosses sociétés comme Toray, comme Air Liquide, comme Arkema. Et si jamais donc elle ferme, eh bien ça va produire quelques problèmes dans ces sociétés. Donc les futurs virés ont manifesté sur le site contre ce plan social injustifié et qui est dû, soi-disant, selon la direction, à des pertes. C'était le 21 mars. Ils ont été rejoints par des travailleurs de la zone industrielle, il faut le remarquer aussi. Yara fait bénéfice sur bénéfice sur 140 pays avec 15 000 salariés, de quoi trancher dans le muscle, hein, ils ont de quoi virer quand même. Il y a 700 millions d'euros en chiffre d'affaires en 2016 et un projet à 2,5 milliards pour un site en Afrique. Alors je conclus par virer les travailleurs blancs exploités pour mieux exploiter les travailleurs noirs. Ben voilà, ben c'est tout à fait une morale patronale.
Ok, bah merci. Du coup, on va enchaîner parce que c'est déjà moins 10.
Ouais, il va falloir faire vite.
On va faire du coup la petite page anti-électorale là, depuis quelques émissions avec cette brochure là, Pourquoi nous ne votons pas, qui avait été édité par le groupe de la CGA de Montpellier.
Donc on avait déjà fait du coup les semaines précédentes, je vote car des gens sont morts pour obtenir ce droit, je vote pour être représenté, je vote car je suis pour la démocratie, je vote pour choisir qui est à la tête de l'État et je vote pour barrer la route au Front National. Et bien aujourd'hui on va faire je vote car je pense que c'est quand même moins pire avec la gauche. Trois petits points. Les exemples récents de Syriza en Grèce ou de Podemos en Espagne ont montré leurs limites et leur pouvoir d'assèchement et de division sur le terrain de la contestation sociale. Plus globalement, hein, l'histoire de la social-démocratie montre qu'il est vain d'espérer en finir avec le capitalisme et ses effets par la réforme, et le Parti Socialiste français en est une triste illustration, mais absolument pas une exception. Il en est de même pour les phases révolutionnaires transitoires du type étatique, hein. Ce sont autant d'énergie perdue pour un changement social profond et révolutionnaire. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vraiment c'est pire avec la droite? Pas forcément, parce qu'il y a eu plus de privatisation avec la gauche de Jospin que les deux gouvernements de droite précédents. Démantèlement de la sidérurgie dans les années 80, généralisation de la précarité, responsabilité dans la casse des retraites. L'Espagne socialiste de Zapatero a fait passer l'âge légal de la retraite à 67 ans, plus fort que Sarkozy et Fillon. Les premières pratiques sécuritaires au niveau municipal ont été mises aussi en place par la gauche. La Rochelle, radicaux de gauche, et ses premiers arrêtés anti-mendicité. Le gouvernement entre guillemets socialiste de Levas a accéléré la dévastation des droits sociaux avec la loi travail et ses avatars. Et aujourd'hui, les gens adoubraient Macron, son initiateur. Il y a aussi des réformes émancipatrices entre guillemets, hein, qui ont été aussi obtenu, je parle vite si je veux monsieur, ça vous, non c'est ça, aussi obtenu sous la droite avec la dépénalisation de l'IVG, l'augmentation de salaire, la majorité à 18 ans. Vous avez de jolies lunettes, c'est formidable.
Elles ont été obtenues par la lutte, pas par la droite.
Et on voulait, eh ben non, parce que là du coup, c'est pas... monsieur, c'est le niveau de combativité donc qui détermine les avancées sociales ou pas, et pas la couleur du gouvernement. Voilà, vous m'avez précédé dans mes paroles. Actuellement, le capitalisme s'avance décomplexé, et pas forcément lorsque la droite est au pouvoir, mais parce que le rapport de force est défavorable à ceux et celles qui sont contre. La gauche au pouvoir a largement participé à coup de renoncement idéologique à l'acceptation des inégalités. De plus, du fait des relais syndicaux de la gauche, la contestation sociale peine parfois plus lorsqu'elle est au pouvoir. La contestation contre la loi travail est une... Et de ce, une... Oh là là, j'arrive plus du tout à lire, je suis fatigué.
Un, deux, tranquille.
Et de ce, une première, voilà. Non, ça ira, merci. Dans la même logique, les Verts ne sont jamais aussi peu écolo que lorsqu'ils sont au gouvernement. Je vous en ligne une autre petite. Je vote, mais ça ne m'empêche pas de lutter. Nous devons rompre avec les stratégies électoralistes qui divisent au profit des revendications et des luttes qui unissent. Attendre des élections pour obtenir des changements émancipateurs est une illusion qui ne bénéficie qu'aux dominants et qui n'entraînera jamais la fin du capitalisme. Si l'on ne veut pas déléguer aux politiciens une vision politique globale, le mouvement social doit se réapproprier un discours et des pratiques pour changer la société et l'administrer sans État. Pour cela, il faut rompre avec l'électoralisme. Le seul vote, entre guillemets, révolutionnaire est celui qui décide la grève et les luttes dans les assemblées générales par l'auto-organisation ou dans les syndicats et qui se traduit par une convergence des résistances au capitalisme et à l'État hors des institutions et contre elles. Les militantes et les militants de la gauche antilibérale et révolutionnaire, tous entre guillemets, présents en nombre dans les mouvements sociaux, consacrent trop souvent une part significative de leur énergie aux logiques politiciennes au détriment de la lutte. Mais en plus de cela, leurs interventions dans les mouvements sociaux est enfermée dans cette logique institutionnelle. De point, les mouvements sociaux sont cantonnés dans la sphère du groupe de pression, du lobbying, du terrain, du recrutement pour le parti. Tout l'effort est orienté vers la logique institutionnelle. Exemple de 2007, des comités pour une candidature unitaire et des comités pour un antilibéral est typique. Les réseaux syndicaux associatifs sont sollicités dans ces aventures entre guillemets sans autre lendemain que le renforcement des partis, les composants et les appétits politiciens de tel ou tel. Le résultat est une inévitable division des énergies focalisées sur des échéances qui n'ont aucune incidence significative sur la vie quotidienne des millions de travailleuses et travailleurs avec ou sans emploi. L'offensive capitaliste poursuit son cours à l'échelle européenne après le non, entre guillemets, hein, comme elle le poursuivra après les échéances électorales. Les gens se sont exprimés au référendum pour le non, mais le Parlement a validé le oui. Il est d'ailleurs significatif qu'une telle énergie n'ait jamais été mise au service, par exemple, de la préparation d'une grève générale interpro, ne serait-ce que sur des revendications immédiates du type hausse des salaires, baisse du temps de travail, etc., etc. Puis je vais continuer. En fait, comme je parle très vite, et ben, du coup, j'ai encore du temps, et c'est très
et
bien.
Tout ça sans respirer.
Tout à fait. J'en fais encore deux, du coup, voilà, ça finira l'heure. Je vote car c'est comme ça qu'on me l'a appris, et il faut bien donner son avis. Trois petits points. hein. L'attachement de la majorité de la population au suffrage est toutefois forte et beaucoup ne peuvent même pas envisager de renoncer à ce droit dont l'exercice n'amène pourtant pas de réels changements dans l'existence collective. Le fameux devoir civique est souvent si ancré, il n'y a pas de liaison là, ouais, si ancré dans les consciences, voilà, ouais, il n'y a pas de liaison là, donc je recommence. Le devoir civique, entre guillemets, est souvent si ancré dans les consciences que même les déceptions face au changement de gouvernement n'apportant pas de changement réel ne parviennent pas à remettre en cause le fait de voter. Tout juste ces frustrations rendent-elles le choix politique plus difficile, entre guillemets, pour quel parti voter lorsque aucun n'a l'air satisfaisant ou que tous ont montré leur inefficacité. Il y a effectivement un vrai apprentissage, entre guillemets, à l'école et tout au long de sa vie, qui permet au système de se perpétuer. À travers le droit de vote, on ne donne pourtant pas son avis, on donne à l'État le droit de diriger notre vie. Et si on tente de donner réellement son avis, lutte, grève par exemple, il nous est renvoyé que la rue ne gouverne pas, mais que c'est le pouvoir rendu légitime par les urnes. Et quand le résultat des urnes ne convient pas aux élites de l'État, on fait intervenir l'armée. Avec l'exemple du Chili par exemple, on refait voter, par exemple le traité sur l'Europe au Danemark ou en Irlande, ou alors on fait voter le Parlement, vote du TCE en France. Et donc je vous fais le dernier. Eh oui, je continue. Je fais comme je veux. Non, mais c'est moins 5.
Mais
ouais, je faisais juste une...
On est bien là, non ?
Mais on peut peut-être s'en garder pour la semaine prochaine.
On est bien, on est bien. Peut-être que je ne serai pas là la semaine prochaine, on n'en sait rien. Eh bien non, pas encore. Je fais le dernier. Voilà, donc je vote car je ne sais pas quoi faire d'autre. Face aux enjeux, menaces écologiques, crise sociale, guerre, etc., l'enjeu est de rompre avec le capitalisme et d'organiser différemment la société. Les élections ne répondent pas à cet enjeu. Nous pensons même que participer aux élections empêche de penser et vivre un changement de société. Pour nous, la seule voie à suivre est celle du développement des luttes et de leur convergence, loin des isoloirs. Au-delà de la faiblesse de leur score lors des présidentielles, il n'y a rien à attendre d'une hypothétique recomposition à gauche dès lors qu'elle s'inscrit sur le plan électoral. Elle répéterait les impasses du passé et ses renoncements avec la prise du pouvoir et la gestion du système. De Mitterrand à Syriza, les résultats et les désillusions ont toujours été les mêmes. On peut même rajouter, pareil, les péronistes en Argentine. À nous de faire donc que les luttes du monde du travail pour des augmentations de salaire contre la précarité ou les licenciements rejoignent les luttes des sans-emploi, des mal-logés et, ou des sans-papiers, nous amènent à une remise en question de l'organisation du travail et de la société actuelle. Les luttes contre les mesures et lois sécuritaires doivent s'inscrire en lien avec le combat contre les discriminations sociales et raciales, les violences faites aux femmes et toutes celles ayant un vécu social de femmes et les préoccupations des quartiers populaires. Et bien sûr, à nous de faire que toutes ces luttes se fédèrent ensemble pour faire émerger un nouveau rapport de force sociale, mais aussi un projet de société émancipateur, égalitaire et libertaire. C'est pour cela qu'on s'organise. Hey !
Non, si on veut continuer sur le sujet une prochaine fois, on pourra aussi ajouter à ça et discuter un peu du FLN, le Front de lutte nicaraguayen, qui du coup était issu d'un mouvement révolutionnaire à la base, mais qui est passé au pouvoir ensuite par les urnes et de ce que ça en est devenu aujourd'hui.
Du coup, vu que l'émission est enregistrée et que tout le monde a bien entendu, donc on te mandate pour la semaine prochaine pour faire une présentation.
D'accord.
Voilà, et on sera très content de t'écouter. On attend ça avec impatience.
Et je pourrais comme ça étaler mon bel accent espagnol.
Tout à fait. Voilà,
tu pourras même le dire en espagnol.
Le Frente de Liberación Nicaragüeyen.
Oui, voilà. Mais tout le temps. pour que ça soit plus vrai.
Donc du coup, il est 20h58 et 15 secondes à l'horloge de Radio Canu. On va vous rappeler du coup l'annonce principale, enfin pour nous en tout cas.
Pour tout le monde.
Pour cette fin de semaine. Donc la réouverture officielle après les travaux, même si elle était déjà ouverte avant, mais voilà, les travaux sont finis, donc on fait une petite soirée pour fêter ça. On appelle ça soirée de réouverture, mais voilà, enfin, vous aurez compris que c'est pas forcément le cas. Enfin, en tout cas, elle était déjà ouverte avant, mais bref. Enfin bref, voilà.
Les féminés qui viennent jouer.
Voilà, le trio, voilà, trio des féminés.
Qui viennent, cool.
Voilà, ça va être cool, l'ouverture des portes, parce que maintenant on a une porte, et elle est très belle, parce qu'avant on n'en avait plus. Donc voilà, ouverture de la porte, très belle, à partir de 19h30, voilà, pour boire l'apéro tranquillou et discuter, et début du concert entre 20h30 et 21h. Donc voilà, on vous attend nombreux et nombreux, c'est à prix libre, comme toutes les activités à la plume noire. Donc voilà, que dire d'autre que les cours de langue sont
venez,
toujours...
Il y aura à boire, à manger, venez. Ce sera bien.
Voilà.
Mais il y a le repas solidaire qui est appelé par Jamais sans toi.
Par Jamais sans toi, voilà.
Donc à Vaux-en-Velin, ça doit se passer, je pense, c'est le jeudi 6 avril, donc demain. Devant l'école, c'est à 18h pour discuter donc, de la mise à l'abri des familles. Deux familles hein, qui sont toujours à la rue, voilà, grâce à M. Colomb en particulier.
En particulier la ville, la métropole et tout
et
ça.
Et puis tous les autres.
Hein, tout grâce au racisme d'État en général.
Voilà. Donc voilà, et on vous rappelle les permanences de la librairie donc librairie où on va recevoir bientôt de beaux nouveaux livres, de nouvelles commandes qui vont arriver bientôt à la Plume. On mettra à jour le lien internet avec tous les livres en stock à la Plume Noire très bientôt, dès qu'on reçoit tout ça. Et donc c'est les mercredis de 17h à 19h et les samedis de 15h à 19h. On vous attend, voilà.
Et les cours de langue le lundi soir de 18h30 à 20h30.
Et du coup, on fait un petit appel à la radio parce que voilà, suite à un petit bilan qui a été fait, donc il y a pas mal de monde qui vient du coup pour bénéficier de ces cours de langue. Voilà. Et il manque un petit peu en ce moment de personnes aidants pour les cours. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous le souhaitez. L'adresse, soit vous pouvez nous contacter via le réseau social dont on a une page, et autrement par mail, groupe-lyon@c-g-a.org.
Et voilà, et on rappelle aussi juste qu'on fait toujours une collecte de dons pour les migrantes et les migrantes. Donc si vous avez des choses à nous déposer pendant les permanences, n'hésitez pas. Et sur ce, on vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, et merci de nous avoir écoutés.
Et à mercredi prochain.
Et à mercredi prochain.
Salut.
Salut.
Ciao.